Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés. Aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps.
Homme de conviction, proche du peuple, mais en même temps personnage de l'ombre. Rarement chef d'État n'aura autant refusé de se montrer, de se faire valoir, de s'expliquer. Une discrétion telle que peu de personnes connaissaient son vrai nom. On l'appelait Wari Boumediene.
Nous avons décidé, à partir d'aujourd'hui, de prendre 51% des parts des entreprises françaises et de nationaliser l'exploitation du gaz naturel qui se trouve dans le désert.
Coup de tonnerre à Alger et à Paris. Suite au refus des compagnies pétrolières françaises de renégocier les prix, le président a pris la décision de nationaliser les hydrocarbures algériens. Il serait plus équitable pour les investissements dans la recherche pétrolière que les profits réalisés dans notre pays soient au moins dépensés sur place. Fin de citation. Ces phrases, dans un contexte de tension avec l'ancienne métropole, amorcent ainsi ce que l'on va appeler la décolonisation pétrolifère. À compter de cette date, l'ensemble des gisements naturels de gaz, de pétrole, tout comme les oléoducs et les gazoducs, sont nationalisés. Un geste de courage qui va faire de l'Algérie le propriétaire exclusif de son sol et de son sous-sol, et faire définitivement entrer Wari Boumediene dans l'histoire moderne de son pays.
Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux, nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Nous représentons un marché très vaste pour les industriels des pays développés. Donc, régler ces problèmes en dehors de nous, c'est ignorer en quelque sorte la réalité contemporaine.
Mohamed Ben Brahim Boukharouba, devenu dans la clandestinité Wari Boumediene, naît officiellement le 23 août 1932 à Aïn Assenia, village situé à environ 15 km à l'ouest de Guelma, dans le Constantinois en Algérie. D'autres sources donnent comme année de naissance 1925. Il faut dire que nous sommes en pleine période de la colonisation française. Le jeune, timide et chétif garçon voit le jour dans une famille de paysans pauvres qui compte 7 enfants. À l'âge de 6 ans, il entre à l'école primaire française qui, à cette période, est obligatoire. Mais en même temps, il suit des cours à l'école coranique de Guelma. L'Algérie dans laquelle le jeune Ben Brahim Boukharouba commence sa scolarité est une colonie dans laquelle le code de l'indigénat fait des musulmans des citoyens de seconde zone. Une injustice qui, naturellement, suscite des revendications de la part de certains musulmans. Surtout que beaucoup sont tombés quelques années plus tôt sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale. C'est de cette injustice qu'est née à Paris en 1926 l'étoile nord-africaine créée par Messali Hadj, dont l'objectif est clairement déjà l'indépendance. Mais elle est interdite dès 1929 et son fondateur est accusé de propagande subversive. Il recréera un peu plus tard, en 1937, le Parti du Peuple Algérien, PPA. L'année d'après, dans ce climat de revendication de l'amélioration de leur statut, Ferhat Abbas fonde l'Union Populaire Algérienne, qui à ce moment réclame tout simplement l'accession des musulmans à la citoyenneté française. Dès 1939, Paris décide de la dissolution des partis et fait arrêter les dirigeants nationalistes. Mais en métropole, la situation politique se dégrade avec l'entrée en guerre de l'Allemagne nazie. En ce début d'année 1940, la France entre dans une forte zone de turbulence. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie.
Ainsi, au même moment, de l'Indochine au Sénégal, de la Tunisie à Madagascar, de la mer Rouge aux mers australes, s'est levée une puissante armée d'hommes de toutes couleurs, de toutes races, de toutes confessions. Pour augmenter les effectifs stationnés en France, de tous les points de l'Empire, d'importants renforts ont franchi les mers sans encombre pour venir à l'aide de la métropole. Car il n'y a pas une France et des colonies, il y a une patrie commune, faite d'hommes qui ont le même idéal, vivre libre ou mourir.
La mobilisation en Afrique du Nord va permettre de septembre 1939 à juin 40 de constituer pour le corps de bataille 14 divisions regroupant 340 000 hommes avec un encadrement composé essentiellement d'Européens et un troupier majoritairement indigène. 8 divisions sont sur le front français le 10 mai 1940 au moment de l'offensive allemande. Sur les 6 divisions françaises qui tenaient entre la Dyle et la Meuse, 3 étaient nord-africaines. Durant 8 mois, c'est la drôle de guerre. Les troupes nord-africaines vont attendre comme les autres. Certains soldats musulmans vont même trouver le temps de célébrer la fête de l'Aïd à la mosquée de Paris.
La fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du mouton, qui commémore le sacrifice d'Abraham, attire cette année-ci une affluence exceptionnelle à la mosquée de Paris. Parmi les fidèles, on remarque de nombreux soldats musulmans qui servent dans l'armée française. Sikadour Ben Gabri, directeur de l'Institut musulman, reçoit les invités.
En mai 1940, les Allemands attaquent. Un mois plus tard, l'armée française capitule.
7 juin 1941, le maréchal Pétain parle à la France.
Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressai mon premier appel à la France. Le disque qu'il enregistra, va tourner devant vous. Entendez-le, il vous replacera dans l'atmosphère du jour où cet appel fut prononcé.
Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Paris capitule. La débâcle de l'armée française en juin 1940 se solde par plus de 85 000 tués, dont 5 400 nord-africains et 1 800 000 prisonniers, dont, selon le gouverneur général de l'Algérie, Yves Châtel, 90 000 musulmans. 60 000 Algériens, 18 000 Marocains et 12 000 Tunisiens. Ils sont internés dans le front Stalag, le camp de prisonniers situé en France, éparpillé sur l'ensemble de la zone occupée, avec quelques Français pour servir d'encadrement. Les soldats originaires des colonies françaises constituent la seule catégorie de prisonniers qui connaît la captivité en France occupée. Tous les autres sont transférés au cours de l'été et de l'automne 1940 dans les camps du Reich situés outre-Rhin. Et l'armée multiraciale qui faisait la fierté de la Grande France devient pour les nazis le symbole de son abaissement. Pour eux, les soldats coloniaux sont des sous-hommes.
Les immenses colonnes de prisonniers français en route pour les camps que l'on croise partout sont sans fin. Et toujours les mêmes images. blancs, marrons, noirs, toutes les races du monde. Ces hordes sauvages avaient pour but d'envahir l'Allemagne. Ce sont les frères noirs du poilu.
Linda Amiri, historienne algérienne.
Mes grands-parents, donc les deux paternels et maternels, ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Un a été interné dans un front Stalag, camp de prisonniers allemands. L'autre a été blessé et a été ensuite aussi interné en tant que prisonnier. Donc je sais que les deux sont revenus vivants de la guerre et très marqués aussi par les combats. Je sais que le passage dans les fronts Stalag a été extrêmement dur, extrêmement violent et qu'ils en ont gardé des stigmates après-guerre.
Mohamed Zenaf, éducateur à la retraite.
Mon père a été prisonnier 5 ans en Allemagne. Il a été démobilisé en 1945. Une de mes blessures, c'est de ne pas lui avoir posé les questions sur cette détention. Alors rien, mais ce qui s'appelle rien. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de nos parents.
J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Le jeune Mohamed Ben Brahim Boukarouba n'est qu'un enfant lorsque des milliers d'Algériens répondant à cet appel du général de Gaulle en juin 1940 vont eux aussi être engagés et embarqués sur le front en Europe. Tirailleurs d'abord, spahis, recrutés d'abord en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, au Congo et bien sûr en Algérie, les indigènes constituent le quart des troupes françaises engagées dans la libération de la métropole. Frères d'armes sur le champ de bataille, les Algériens restent des Français de seconde zone en Algérie. Ils sont privés de droits sociaux, juridiques et politiques. Pourtant, ils représentent environ 80% de la population. Parmi ces soldats de l'Empire, un certain Ahmed Ben Bella, lui aussi, participe au combat en cette année 1944. Il va également être de la campagne d'Allemagne en 1945. Promu adjudant, il est cité 4 fois, dont 2 à l'ordre de l'armée et décoré de la médaille militaire par le général de Gaulle en personne.
J'étais décoré à la Deuxième Guerre mondiale, mais en France, en battant en France contre l'aviation allemande. Nous avons descendu des avions sur Marseille qui sont venus, n'est-ce pas? Et personnellement, j'étais un de ceux qui avaient descendu ces avions. Alors, ils ont descendu pas mal d'avions, les Stuka, qui sont venus bombarder le port de Marseille. Et donc, j'étais décoré, là, j'avais une croix de guerre. Mais j'étais appelé, n'est-ce pas? J'étais simplement appelé. Je vais vous dire quelque chose, je vous le dis sans, mais uniquement pour un peu vous mettre dans l'ambiance. J'étais un des seuls à me battre, tellement il y avait un sentiment de lâchage comme ça, vous savez. Le type qui était avec moi, pas tous, parce que finalement c'est avec les types qui m'ont suivi, j'étais sous-officier à l'époque, que nous allons nous vraiment défendre Marseille, tirer sur et échapper par miracle, vous savez, parce qu'on était sur la jetée, on était bombardés. Bon, les obus tombaient à gauche ou à droite, mais très près de nous, hein. Et c'est comme ça qu'on a pu finalement faire tomber pas mal d'avions. Je vous assure, je l'ai fait un peu contre la volonté de tous mes amis qui étaient là, qui étaient sous officiers. J'ai été même, j'hésite à vous dire ça.
Ah non, allez-y.
Ouais. Ben, j'étais menacé, vous savez, d'être liquidé. Tellement il y avait cet esprit de, vous savez, de lâchage, hein, qui avait touché un peu pas mal de gens, etc., de vie, d'abandon, etc. Et parce que moi, j'ai dit non, moi, je tire. Quelqu'un était venu de la part des officiers me dire « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Tu veux ?» Je dis « Non, moi je tire. »
Liberté !»
Message que le monde attendait sort du plus profond de l'âme française. Il vient du coin le plus menacé de la France. Il vient d'Alger. Grands Français, militaires et civils, y joignent leur voix pour lui donner la force de retentir au-delà des mers jusqu'aux chaumières les plus reculées de la France. Et plus particulièrement, vers cette chaumière où un homme qui incarne la France l'attend depuis plus de 10 ans. Aux portes de l'abîme, ce sursaut national sauvera la France. Et le général de Gaulle donnera à cette résurrection son retentissement mondial.
Avec les mois qui passent, l'armée française, aidée par l'industrie américaine, se trouve de nouveau à la tête d'un puissant matériel moderne.
Avec le soutien des alliés britanniques et américains, cette fois-ci, la victoire est au bout du fusil. Les forces nazies reculent sur tous les fronts. Ses chefs sont soit arrêtés, soit suicidés.
Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. 2 jours après les signatures de Reims, le maréchal Feder, représentant le général Eisenhower, arrive à Timpelhof pour présider aux côtés du maréchal Jukow à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général Delattre de Tassigny, venu représenter l'armée française. Et c'est là qu'arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Jukow et les alliés d'un côté, de l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumm. Drame à deux voix. Jukow demande, êtes-vous prêt à signer? Keitel n'a qu'un mot, ya. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale. Keitel regarde, il est prussien, il pense à Iéna, il pense à Rotonde. Il pense qu'il y a encore une fois un nom français au bas de ce papier et qu'une signature, c'est un destin qui se ferme. Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus. Et ce silence s'emplit d'une rumeur, celle du pas des soldats, de ceux qui vivaient casqués depuis des années et qui simplement, humblement, ont fait la guerre avec leurs pauvres mains et leurs pauvres vies. Et derrière cette rumeur, il y a des présences sensibles, des visages familiers dont on fera des images saintes et des légendes, les visages de ceux qui ont joué la victoire pour les hommes de leur pays. Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie. Ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Grand moment pour les vainqueurs, pour toutes ces troupes, ces soldats de l'Empire qui se sont battus souvent très loin de chez eux, dans des conditions épouvantables, pour une cause qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais comme nous allons le voir dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Wari Boumediene, qui n'est encore que Mohamed Ben Brahim Boukharouba et qui n'a que 13 ans, la célébration officielle de cette victoire, le 8 mai 1945, va marquer un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, mais également dans sa vie. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans une dizaine de minutes, pour la suite d'Archives d'Afrique. Restez à l'écoute.
Les Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La vérité est que je suis un militant révolutionnaire, simple.
simplement un militant révolutionnaire.
S'il se définit comme un simple militant révolutionnaire, c'est parce qu'il préfère l'ombre à la lumière. Bien qu'il soit à la tête de l'État algérien, il préfère laisser parler ses camarades avec qui il a pris le pouvoir. Il affectionne surtout les contacts avec les populations, les masses villageoises auxquelles il s'identifie d'abord. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mohamed Ben Brahim Boukharouba, alias Wari Boumdiene, le second président de l'Algérie moderne.
C'est la fin. L'amiral Dönitz, à qui Hitler, mort ou vivant, a abandonné le commandement suprême. Et Dönitz offre la capitulation, sans condition, de l'Allemagne. Elle est signée à Reims le 7 mai, dans une salle d'école, devant les représentants du haut commandement interallié, par le général Jodl, accompagné de l'amiral von Friedenburg. Cette fois, c'est bien fini. Le rideau tombe. Français, avec nos alliés anglais, américains et russes, nous signons la fin de la tragédie. Et le général Eisenhower peut dire, je pense qu'il est particulièrement symbolique que la reddition ait été signée au cœur de la France. Ce pays qui a tant souffert, ce pays où nous avons débarqué en juin dernier et dont les forces armées et les mouvements de résistance nous ont tant aidés.
The country in which this invasion force landed last June and the one in which the forces and resistance movements have helped us so much.
Le rideau tombe donc sur cette guerre où des milliers de soldats venus des colonies ont donné leur vie pour libérer la métropole. Pour les alliés, c'est la victoire. Mais le Maghreb nationaliste bouge. Au Maroc, on apprend la signification du mot « Istiklal », indépendance. En Tunisie, les partisans de Habib Bourguiba sont de plus en plus nombreux. On les traque. Leur chef est en exil. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. La population algérienne, comme beaucoup en Indochine, en Tunisie et en Afrique, pense que le temps des colonies est terminé. Elle pense qu'après avoir battu l'Allemagne d'Hitler aux côtés des Français, avoir contribué à la libération de la métropole du joug fasciste, il va y avoir une sorte de reconnaissance de ce sacrifice du sang donné pour la France. Il se dégage une sorte de volonté populaire à ouvrir un nouvel horizon vers l'indépendance. Ce vent d'espoir qui souffle sur les colonies est encouragé par un climat favorable aux revendications nationales. Déjà en mars 1945, 7 pays arabes sous mandat britannique se retrouvent au Caire en Égypte pour créer la Ligue des États arabes. Ils revendiquent leur indépendance. Les alliés vont se réunir un mois plus tard à San Francisco aux États-Unis d'Amérique, où ils promettent de tenir compte des aspirations des populations et de les aider à accéder à la souveraineté internationale. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est inscrit dans la Charte des Nations Unies qui remplace la Société des Nations.
Les magnifiques troupes américaines, dont le sang versé sur notre terre s'y éloignait de leurs cités et de leurs champs pour une cause qui n'est pas de distance, nous rend plus précieuse encore le sol qu'il a reçu et plus sacré la moisson qu'il a fait lever et qui s'appelle liberté. Confiante dans sa force régénérée, confiante dans les promesses de l'avenir, assurée d'elle-même au point d'avoir la première au lendemain d'une telle épreuve, rétablie par des élections libres et ordonnées, le fonctionnement régulier des institutions démocratiques, la France on donne ici l'assurance, se dévouera d'un cœur fervent à la grande tâche de garantir au monde la sécurité pour tous et le droit de chacun.
En Algérie, depuis la guerre, les mouvements nationalistes ont infiltré toutes les couches de la population arabe. Dans les mosquées, les religieux, les oulémas prêchent « l'arabe est ma langue », l'Algérie est mon pays, l'islam est ma religion. Mais pour la France qui tire une bonne partie de ses revenus de la colonie, il n'est pas question de céder aux revendications nationalistes. Le général de Gaulle le rappelle d'ailleurs en 1944. Il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous glisse entre les doigts pendant que nous libérons l'Europe.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918 et qu'on aime mutiler, cette victoire nouvelle que cette fois il faut garder intacte.
Ce 8 mai 1945, partout en France, c'est la liesse. Sur les Champs-Élysées, on défile. On célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Parmi les troupes qui défilent, les tirailleurs nord-africains. En Algérie aussi, on célèbre l'événement. Les partis nationalistes, profitant de l'audience particulière donnée à cette journée, décident par ces manifestations de rappeler leurs revendications. Ce défilé a été autorisé à la condition que seuls des drapeaux français soient agités, aux côtés de ceux des alliés bien sûr. Dr Chaouki Moustafé, membre du comité central du PPA, le principal parti qui réclame l'indépendance.
Étant donné qu'il y aura ici la présence des alliés, des armées alliées, des officiels, de la presse internationale, il faut marquer un grand coup. Et nous allons défiler le jour de la victoire pour faire de ce jour de la victoire notre victoire, celle du peuple algérien. Comment donner un éclat à cette manifestation? Il y aura des banderoles, d'accord, il y aura tout. Mais tout cela, c'est tellement commun, tellement ordinaire. Eh bien, que cela tienne. On prend du vert, du blanc et du rouge, et puis on se fait un drapeau. Je me suis permis de faire quelques esquisses. La majorité s'est déclarée pour celui-là, l'actuel. On a donné cet exemplaire à Saïd Amrani, responsable à ce moment-là de l'organisation du PPA, de diffuser à travers toute l'Algérie le modèle de drapeau à confectionner.
Sétif, mardi 8 mai 1945. C'est un jour de marché, avec toute l'ambiance joyeuse et grouillante que cela suscite. Tout le monde afflue vers l'avenue Clémenceau où doit se dérouler la cérémonie de célébration de la victoire. Bien qu'autorisé, le défilé est placé sous haute surveillance. Lardar Tarami était du défilé.
La manifestation est partie d'ici, vers la rue de Constantine, qui s'appelle maintenant la rue du 8 mai 45. Les femmes faisaient des you-you. Les scouts marchaient devant et on criait « Libérez l'Afrique ! Libérez l'Afrique !»
Le cortège, 6 à 8 000 manifestants, se met donc en route en bon ordre. Direction le monument aux morts au cœur de la ville européenne. Comme à Paris et dans d'autres villes d'Algérie, il se déroule dans un climat festif, avec au milieu de la foule des militants algériens. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'on arrive à hauteur du Café de France. La police s'aperçoit de la présence de deux drapeaux algériens agités par deux militants nationalistes. Dr Chaouki Moustafé, membre du comité central du PPA, le principal parti qui réclame l'indépendance à cette période-là, est tête du défilé.
Arrivé au carrefour, la voiture de la BMPJ, qui avait à sa tête le commissaire Olivieri, et quatre autres agents, tous européens, sont descendus, ont laissé passer les scouts, sont descendus armes au poing. Et ils s'élancent vers les porte-drapeaux.
Mohamed Chérif, ancien militant du PPA, était un des porteurs de ce drapeau algérien.
Ils étaient deux. Ils m'ont tout de suite attrapé. Ils m'ont empoigné pour m'enlever le drapeau. Et un jeune homme me l'a arraché des mains. Que Dieu ait son âme. Il s'est enfui avec le drapeau. Ils lui ont tiré dessus juste devant le Café de France.
Le jeune Bouzid Saad s'effondre abattu par la police. Slimane Nélis était aussi dans le cortège.
Au moment du passage du défilé, j'ai vu Lucien Olivieri, commissaire de la PJ, sortir son colt et attirer sur la foule. Entouré de ses collaborateurs, le nommé As, Glaise, Prudent, Léo Kata.
C'est l'émeute. Immédiatement, c'est la fusillade. L'Ayachi Kerbache était dans la foule au défilé.
Quand ils ont tué le porte-drapeau, cela nous a rendu fous. Et on s'est mis à frapper les Français que l'on rencontrait.
Les manifestants en colère s'en prennent aux Français, aux cris de Katlou et Nassara, et font en quelques heures 28 morts chez les Européens, dont le maire qui a cherché à s'interposer, 48 blessés aussi. Il y aurait de 20 à 40 morts et de 40 à 80 blessés chez les indigènes. Saadi Bourras fait partie du service d'ordre des AML, le mouvement de libération.
Il y avait eu des morts, surtout parmi qui ? Parmi les gens, c'était un mardi, c'était le marché. Ils venaient de la ville. Sur cette route-là que vous voyez là-bas, il y a eu des centaines de morts. Tout ce qu'ils se trouvaient devant eux, ils les tuaient. Ils se sont répartis sur toutes les routes parce qu'ils savaient que c'était le marché et que les gens devraient rentrer. Parmi eux se trouve Babi Fantano. Il se trouvait Parmenti. Il se trouvait Colombo. Ils étaient quatre, ceux-là, surtout ceux-là. Ils en ont fait un massacre. Et les colons, avec eux, dans leur voiture, ils chassaient et pourchassaient les gens qui rentraient chez eux.
À 13h, la police et la gendarmerie ont fini par reprendre le contrôle de la situation. Les manifestants quittent précipitamment la ville. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Sassi Ben Hamla, ancien militant du PPA.
Nous sommes tombés sur une brigade, un barrage de gendarmerie dont la moitié était à genoux, pied à genoux, l'autre moitié debout, et derrière eux était Achari, le sous-préfet de Guermantes. Et ils ont fait feu sur nous. Et c'est la débandade.
Alors que l'émeute se calme à Sétif, dans le même temps, d'autres émeutes éclatent au cri de djihad dans la région montagneuse de Petite Kabylie, dans les petits villages entre Bougie et Djidéli. La scène barouche.
Le car est arrivé de Sétif, il était criblé de balles. Les voyageurs sont descendus. Il y avait Mohamed Bouaoui. Je lui ai demandé, Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce car est criblé de balles ? Il m'a répondu, Sétif s'est rebellé. Et vous ici, qu'est-ce que vous attendez ?
Des fermes européennes isolées et des maisons forestières sont attaquées et leurs occupants assassinés, souvent dans des conditions particulièrement atroces. La contagion touche tout le Constantinois. Dans le climat nationaliste de l'époque, à Kerata, des villageois se lancent aussitôt dans des opérations de sabotage, comme ces habitants de la petite ville qui tous avaient 20 ans ce 8 mai 1945.
Le 8, on est descendu au village. On a vu le car arriver, criblé de balles, et on a appris qu'à Sétif, c'était l'émeute, le djihad. Alors, on a combattu. On a pris des bidons d'essence, on les a mis à la poste, au palais de justice et à la maison de Saxe. On a craqué une allumette et on a tout fait sauter. Tous les Français se sont réfugiés ici. Alors nous sommes venus pour les attaquer et ils nous ont reçus à coups de fusil. Alors on est allé chercher des bidons d'essence pour les faire brûler. Voilà la vérité.
La répression menée par l'armée et la milice de Guelma est d'une incroyable violence. Exécution sommaire, massacre de civils, bombardement de Mejta. Le croiseur du Guétrouin et le contre-torpilleur Le Triomphant tirent plus de 800 coups de canon depuis la rade de Bougie sur la région de Sétif. L'aviation bombarde et rase plus ou moins complètement plusieurs agglomérations kabyles. Une cinquantaine de Mejta sont incendiées. Les automitrailleuses font leur apparition dans les villages et elles tirent à distance sur les populations. Les blindés sont relayés par les militaires arrivés en convoi sur les lieux. Jean-Charles Geoffrey, historien militaire.
Le 14 août 1944, le général de Gaulle, quand il confie au général Henri Martin, qui dirige, pour me résumer, l'armée d'Afrique, si vous voulez, le 19e corps d'armée, il lui dit ceci. Il faut éviter que pendant que nous libérons l'Europe, l'Afrique du Nord nous glisse entre les doigts. C'est très simple. Le général Henri Martin a des instructions, un plan du 30 octobre 1944 qui prévoit qu'en cas d'insurrection, il puisse agir en toute liberté, qu'il puisse intervenir très rapidement avec le maximum de moyens.
Bernard Despied était soldat venu de la métropole.
Dans la journée, on avait trouvé à un poste d'entrée dans le village une trezaine de 13 ouvriers agricoles avec des petites serpettes, avec des djellabas pratiquement en guenilles, quoi. Et donc, les papiers qu'ils avaient étaient à peine lisibles, forcément, chez ces gens-là. Et l'adjudant a pris ce prétexte pour trouver que ces papiers n'étaient pas en règle, tout ça. Et il a dit, ben, on va tous les fusiller, puisque c'est comme ça.
À l'image d'une milice de 200 personnes qui se forme à Guelma sous l'impulsion du sous-préfet André Achiari, qui distribue toutes les armes disponibles, soit les 60 fusils de guerre qui équipaient les tirailleurs, les colons vont se livrer à une véritable chasse aux émeutiers et aux populations indigènes. Saadi Bourras, un membre du service de sécurité, les AML, les mouvements nationalistes.
Il était avec nous, certains Français se sont élevés contre tous ces massacres et tout. Et d'autres, par contre, des colons, surtout des colons, ces gens-là n'ont aucune pitié pour le coloniser. Et on les a vus. On les a vus le 8 mai 45. Là, on a vu leur vrai visage.
Adamani.
Beaucoup sont tombés à l'arrivée des militaires, près du marché, partout. Les soldats tiraient sur tout le monde. Les gens tombaient comme des raisins secs.
Vous y étiez ?
Oui, nous étions là. Ils ont tué l'enfant de Madame Bélaniche qu'elle portait sur son dos. Nous courions ensemble. Elle serrait son enfant de 8 mois dans son châle. Quand ils ont tiré, elle n'a pas réalisé. La balle les a transpercés d'ici à là, tous les deux.
Les morts musulmans se compteront par dizaines de milliers. En plus de l'armée de terre, la marine et l'aviation sont engagées dans la reprise en main en cette fin mai 1945. L'état de siège est instauré dans le département du Constantinois. Les violences vont durer plusieurs semaines. Officiellement, cette répression a fait 1500 morts algériens et 110 européens. Mais selon le général Duval qui a organisé cette répression, il y a eu 7500 morts. Quant au général Thubert, membre de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces événements, il avance le chiffre de 15 000. Mais selon les nationalistes algériens, elle a fait 45 000 morts. Cette polémique sur les chiffres des victimes musulmanes qui seraient situées entre 15 000 et 20 000 morts, selon les experts, a fait naître dans le même temps, dans l'esprit de nombreux Algériens, un engagement et parfois une radicalisation. Le jeune Wari Boumdien, qui n'est qu'un adolescent, va être marqué par cette violence, par cet événement qui va l'amener, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons, à s'engager aux côtés des nationalistes pour combattre pour l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Pour lui, cela devient évident. On en parle la semaine prochaine, mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous y retrouverez également tous les personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique dont nous avons parlé jusque-là. Vous pouvez dans le même temps réagir sur notre page Facebook, la première sur notre radio, avec ses 580 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Wari Boumdien. Restez à l'écoute de Radio France Internationale.